8h31, bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Un ralentissement plus fort qu'attendu pour Facebook.
Oui, tu n'as toujours pas quitté Facebook?
Pas encore, non.
Non, ben c'est ça, il y a eu des polémiques dans les derniers mois, hein, l'ingérence russe, la désinformation, les fake news. Là. La gestion des données personnelles aussi a causé problème. On pointe directement vers Cambridge Analytica notamment. Et donc, il y a Facebook qui a publié ses plus récents chiffres. On se parle quand même de 2,23 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est quand même beaucoup, mais c'est moins que ce que l'on avait anticipé. On attendait 2,25 milliards, donc ça a peut-être refroidi certains investisseurs, ou en tout cas le marché. Le nombre d'utilisateurs quotidiens, ça c'est un chiffre qui est extrêmement intéressant, c'est 1,47 milliards de gens sur la planète. Ça veut dire qu'il y a...
Chaque jour,
ils vont sur Facebook, 1,47 milliards. Ce qu'il faut noter par contre, c'est que pour la première fois, il y a eu une baisse en Europe du nombre d'utilisateurs quotidiens. Il y a eu une baisse d'à peu près 3 millions d'utilisateurs. Évidemment, ça empêchera personne de dormir, mais c'est une tendance qui est assez particulière. Évidemment, en ce moment, on pointe du doigt la croissance décevante de Facebook. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu atteins ces chiffres-là, il n'y a plus beaucoup de place à la croissance. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils nous sont arrivés avec un nouveau paramètre ou une nouvelle statistique, c'est-à-dire un total combiné du nombre de personnes qui utilisent au moins une des applications Facebook, c'est-à-dire soit Facebook, Messenger, la messagerie là, donc de chat, Instagram ou WhatsApp, qui est une autre application de messagerie. Et ce total-là, donc ces quatre applications-là, il y a au moins 2,5 milliards de personnes qui utilisent au moins une de ces applications-là. Donc ça, c'est un genre de nouveau total combiné. Ça veut dire, écoutez, si les gens quittent Facebook, des fois, c'est pour aller vers une autre plateforme que nous possédons aussi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Facebook a investi aussi massivement en sécurité. Je pense que ça se calculait autour de 7 points quelques milliards de dollars. Donc, évidemment, il y a une partie des revenus de Facebook qui va par là. Et on va suivre comment Facebook va pouvoir croître parce que il y a un service de rencontre qu'ils avaient annoncé aussi qui devrait voir le jour éventuellement. Donc,
Un genre de réponse à Tinder, quoi?
Oui, exactement. Puis la journée où Facebook a annoncé qu'il allait avoir un réseau parallèle pour faire des rencontres, l'action de Tinder, la compagnie qui a Tinder, avait baissé, je pense que c'était d'une 20aine de %, quelque chose comme ça.
Ouais. Disons qu'il y en a qui l'utilisent déjà un peu comme ça pour pareil.
Oui, ouais, non, c'est ça.
De façon officieuse.
Officieuse, mais là, on pourrait faire quelque chose de bien séparé. Tes amis ne savent pas nécessairement que tu utilises Facebook avec justement cette option de rencontre. Donc, ça va être déployé. Facebook en avait fait la présentation, ou à tout le moins l'annonce lors de ses conférences F8.
Parce que si vous voulez vous poser la question, là, vous avez des amis sur votre réseau social, sur Facebook, il y a un tas de nouvelles photos qui arrivent tout d'un coup de lui seul.
Ouais.
Dites-vous, c'est parce qu'il est sur Tinder en train de mettre à jour son application. Parce que c'est, les deux travaillent ensemble.
Ben, c'est que tu peux, mais t'es pas obligé.
T'es
pas,
mais tu peux les faire travailler. Okay. Une certaine époque, t'étais obligé.
Tu devais te connecter à Tinder via une application Facebook. Et c'est le genre de lien que l'on essaie le plus possible de sécuriser et de limiter. Il faut vraiment que les développeurs montent patte blanche pour pas justement qu'on ait de débordements, comme l'histoire de Cambridge Analytica, parce qu'à la base, c'était ça. C'était une application qui demandait de se connecter ou un petit quiz via notre nom d'utilisateur et notre mot de passe de Facebook.
On apprenait justement, parlant de Facebook, qu'il y aura une filiale en Chine.
Ouais, mais là, ça sera pas du tout Facebook. Facebook, c'est bloqué en Chine. Donc, ce que Facebook a annoncé, ça va changer en rien la position de Facebook par rapport au gouvernement chinois. Facebook va demeurer interdit, sauf que Facebook va avoir une division qui aura pour mission de travailler sur de l'innovation technologique. Donc, une espèce d'incubateur pour des compagnies en démarrage. Si Facebook peut croître à quelque part, c'est bien en Chine. Là, on se parle d'un marché potentiel de 1,3 milliard d'habitants. Ça pourrait être extrêmement intéressant, mais Mark Zuckerberg, lui, s'est déjà rendu en Chine, mais le réseau social est toujours interdit là-bas. Le voir débarquer avec une filiale de Facebook, il y a quelque chose là qui n'est pas préoccupant, mais à tout le moins intéressant. Mais pour l'instant, pas question que Facebook soit autorisé en Chine.
Rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, tu veux revenir là-dessus?
Oui, ça se passait, mine de rien, la semaine dernière.
Oui.
Et tu te souviens sans doute que Donald Trump a félicité Vladimir Poutine pour l'organisation de la Coupe du Monde, mm-hmm. du Mondial. Et te souviens-tu
Le ballon de soccer?
Oui, Donald Trump a reçu des mains de Vladimir Poutine un ballon de soccer.
Le seul ballon de soccer au monde qui se branche dans un port USB.
Hey, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce qu'on a tous fait le même genre de blague sur Twitter. Il y a même des sénateurs et des policiers américains qui ont dit « Jamais je ferai rentrer ce ballon-là à la Maison-Blanche sans qu'on l'ait passé d'abord au scan. » Et Donald Trump a dit « Je suis très heureux, je vais le donner à mon fils. » Et il l'a lancé à Melania qui l'a déposé sur ses cuisses. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a effectivement une puce placée dans ce ballon.
Arrête donc,
c'est
toi.
Un ballon de marque Adidas et cette puce-là n'a pas été, jusqu'à preuve du contraire, placée là par les Russes, mais bien par Adidas. Donc, à l'intérieur du ballon, c'est une puce NFC, donc de communication à champ rapproché, un peu comme la technologie qu'on utilise pour faire des paiements avec nos téléphones intelligents. On doit déposer le téléphone sur le terminal. Donc, ça permet, avec le ballon, d'avoir accès à du contenu exclusif, à des petits défis via notre téléphone intelligent. Donc, ce ballon-là est vendu comme ça, avec une puce à l'intérieur. C'est Adidas qui fait ça, sauf que c'est vraiment drôle de voir qu'aujourd'hui, dans différents sites techno, on parle de Bloomberg et de Forbes qui rapportent la même histoire que effectivement ce ballon-là contient une puce à l'intérieur. On suppose qu'il a été... techniquement, il a été testé et il peut aussi être gardé par la famille Trump parce que ça vaut moins de 390 $. Si Trump avait reçu un cadeau de plus de 390 $, ça s'en va dans les archives présidentielles. Il ne peut pas les garder à des fins personnelles.
Hey, tu vois, c'est plus qu'ici, parce qu'ici, c'est 200.
C'est 200, hein,
ouais,
c'est intéressant.
Ouais, ouais.
Puis c'est 200 Canadiens.
200 Canadiens, effectivement.
Ah, c'est 390 US. Bref, il y avait une puce dans le ballon. Pas placé par les Russes, il faut pas s'alarmer, mais en même temps...
Je me garderai une gêne pareille, c'est
oui,
drôle, hein?
Des fois que...
et une petite dernière avant de partir, Samsung qui prépare l'écran incassable.
Ah, hein, c'est le rêve de plusieurs utilisateurs. Moi, le premier, l'autre jour, en détachant ma ceinture de sécurité dans la voiture, c'est l'espèce de bout de métal qui a frappé le téléphone qui était dans ma poche de pantalon et qui a craqué mon écran. J'étais en beau pistolet. Parfois, c'est une simple petite chute, mais là, il y a Samsung qui, dans les dernières heures, a publié sur une de ses pages YouTube des tests de solidité quand même assez étonnants. Le téléphone, en tout cas l'écran, qui a résisté à 26 chutes consécutives de 1,2 mètres. Bon, c'est pas extrêmement haut, mais quand même, c'est plus concluant que certaines qualités de verre que l'on a en ce moment. C'est une association de plastique et de verre, et ça permet aussi à l'écran de gagner en flexibilité. Donc, tranquillement, pas vite, ça nous rapproche aussi du fameux téléphone pliable ou de l'écran enroulable qui pourrait donner lieu, évidemment, à une série d'innovations franchement intéressantes. Donc, le téléphone gagne en flexibilité, mais aussi en dureté. Ça va être à suivre, mais on dit que Samsung, si en développant ces écrans-là, ça ne sera pas réservé qu'au marché des téléphones intelligents, mais aussi au marché de l'automobile, des appareils militaires et des consoles de jeux portables.
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Apple va présenter ça 3 ans plus tard, puis on va dire « Wow, quelle innovation, c'est extraordinaire. »
Oui, c'est vrai que parfois, quand Apple réagit à quelque chose, on applaudit au succès, mais
oui.
Quand on regarde ailleurs, il y en avait d'autres qui avaient peut-être ce genre de technologie-là développée aussi.
Merci beaucoup, M. Roy.
À demain.
Salut, à demain. Il est 8h40.